chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission interactive quotidienne. À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans cette discussion. Selon l'Association des universités africaines, l'Afrique compte environ 1650 institutions d'enseignement supérieur, dont un grand nombre sont en difficulté. Depuis la fin des années 70, plusieurs universités d'Afrique subsaharienne, à l'exception de certains pays, ont échoué à fournir un enseignement de qualité. L'accès à l'enseignement supérieur pour le groupe d'âge concerné est de 5%, moyenne régionale la plus faible au monde, soit un cinquième de la moyenne mondiale qui est de 25%, donc selon cette association. Alors quels sont les problèmes de la vie estudiantine et les défis de l'enseignement supérieur en Afrique selon vous? Faut-il réformer le système universitaire et comment revitaliser le secteur éducatif? Pour en parler, vous pouvez nous joindre au 001 202 205 26 33. On a un auditeur en ligne, c'est Raymond Lushima, qui est à Wembonyama, dans le Sankuru, en République démocratique du Congo. Bonsoir Raymond, comment ça va?
Ça va bien, bonsoir La Voix de l'Amérique, bonsoir à tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique.
Alors vous pensez que l'enseignement supérieur et universitaire en Afrique connaît pas mal de problèmes, vous allez nous les citer.
Oui, l'enseignement supérieur et universitaire peine à décoller en Afrique par rapport à certains défis, surtout d'abord l'inadaptation au système LMD, parce que le nouveau processus appelé système de Bologne exige que toutes les universités s'adaptent au système LMD, licence et master doctorat. Mais c'est un système qui est presque quasi inexistant, ou qui existe mais peine à décoller d'un bon nombre d'universités. Ajouté à cela, l'absence de bourses. Les bourses ne sont plus octroyées. Les quelques bourses qui sont octroyées aux universités sont accordées peut-être sur base des appartenances ethniques ou tribales ou religieuses. Et à cela, on ajoute aussi les antivaleurs et le manque de laboratoires spécialisés pour les pratiques, que ce soit pour les enseignants, les pratiques de recherche, que ce soit pour les enseignants ou les étudiants. Les quelques laboratoires qui datent de l'époque coloniale sont déjà en état de vétusté locale, de vétusté totale. Donc, le grand problème est quand on joue du côté personnel, il y a certaines antivaleurs telles que les points sexuellement transmissibles, les points argemment transmissibles, et le point familièrement aussi transmissible. Donc, la méritocratie aurait perdu son vrai sens dans certaines institutions, ce qui fait que l'enseignement peine à décoller. Et puis, quand les enseignants ne sont plus motivés, le gouvernement n'alloue pas un fonds consistant pour la recherche. Les salaires modiques que reçoivent les enseignants, ils sont obligés de faire la recherche qui n'est pas tellement consistante. Je crois que les quelques points que nous avons observés en tant qu'aussi enseignants d'université en Afrique.
Alors, vous dites en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que vous êtes enseignant vous également?
Oui, je suis enseignant à l'Institut supérieur pédagogique de Wembonyama.
D'accord. Et donc, vous parlez de l'inadaptation de l'enseignement au processus de Bologne, hein, ce système de rapprochement des études entre plusieurs pays, notamment l'Afrique, et vous parlez d'ignorance des enseignants au système LMD. Alors, le système que vous avez donc cité, est-ce que cela veut dire qu'il y a une formation importante à faire au niveau de la formation, tout simplement, des enseignants eux-mêmes, dans les processus, en tout cas, en ce qui concerne les processus d'enseignement?
Oui, il y a un problème parce que dans le système LMD, il y a diminution du nombre d'années, augmentation des heures pratiques des étudiants par rapport au nombre d'heures théoriques. Et c'est un système qui nécessite qu'il y ait des laboratoires spécialisés, qu'il y ait aussi des unités de recherche. Mais comme beaucoup d'enseignements se donnent encore au système archaïque où on gonfle plus les heures théoriques, c'est ceux qui se connaissent des difficultés. Les quelques professeurs qu'on a, qui enseignent dans la majeure partie de l'université, n'ont pas appris dans ce système. C'est ça aussi un autre blocage. Ça nécessite que ces professeurs aient ne fût qu'une bourse pour aller s'adapter dans les universités. C'est ça, cela s'applique. Et puis, entre-temps, certains étudiants peuvent aussi en bénéficier. Et certains assistants ou chefs de travaux peuvent aussi en bénéficier pour donner le sens à ce système, pour donner le vrai sens. Parce qu'actuellement en Afrique, il y a un système de vieillissement du corps professoral. Les quelques professeurs sont déjà vieillis et les jeunes peinent à devenir professeurs. Alors c'est un système qui peut nous aider. Au lieu que dans l'ancien système, pour devenir licencié, on faisait 5 ans. Mais dans le système LMD, c'est 3 ans. Dans l'ancien système, pour devenir docteur en thèse, il fallait au moins 10 ans. Mais dans le système actuel, on demande peut-être 7 ans. Donc, cela raconte une diminution du nombre d'années d'études.
D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que ce système a changé? Pourquoi on a réduit le nombre d'années? C'est venu d'où, ça?
Oui, parce que quand on gonfle beaucoup d'heures théoriques, que ce soit l'étudiant ou l'enseignant, d'accord, il ne se donne pas tellement à la pratique. Mmh. Donc on a compris qu'il fallait fusionner certains cours qui ont d'appartenance pour lui donner un autre nom et puis augmenter le nombre de pratiques parce que c'est la pratique qui compte plus. La théorie, on peut l'apprendre pendant une séance entière ou pendant une semaine, mais quant à la pratique, on l'applique peut-être dans 1 heure ou 2 heures.
Donc là, vous parlez...
rendre l'enseignement plus pratique.
Donc là vous parlez... Donc là, Raymond, avant qu'on se quitte, vous parlez d'un système de tricherie, si j'ai bien compris?
Bon, c'est un système surtout dans les grandes universités en ville. Là où les auditoires sont plus surpeuplés, il y a un système qu'on appelle le point sexuellement transmissible, le point largement transmissible.
Merci beaucoup, Raymond. Merci. Merci beaucoup Raymond. On va prendre Adama Togola qui est au Mali, qui pense qu'il faut réformer le système universitaire en incluant les filières notamment de formation inédite en lien avec le marché de l'emploi. Adama, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien.
Alors vous parlez notamment de l'insuffisance des infrastructures universitaires également, comme Raymond que nous venons d'avoir. On vous écoute.
Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Voix de l'Amérique. Le programme de développement de l'Afrique se voit par la qualité même de l'enseignement. Au Mali, les problèmes de la vie étudiantine sont énormes. De l'insuffisance des infrastructures universitaires à la restriction des mesures d'accompagnement des étudiants par les commissions d'octroi des bourses, la violence dans les espaces universitaires, à la corruption aussi des corps d'enseignement mal formés et au nombre pléthorique des étudiants dans les amphis. Tout cela s'ajoute à l'étau qui se réfère sur les étudiants après les études, c'est-à-dire le manque d'emploi. Il faut réformer le système universitaire en incluant les filières de formation inédites en lien avec le marché de l'emploi et les centres de reconversion pour ceux qui ont fait des filières qui ne débouchent pas. Donc, et qui s'ajoute aussi au nombre des candidats donc, à l'immigration en tête d'une rente viagère. Il faut impérativement procéder à la décentralisation des universités dans les autres régions du Mali pour éviter l'exode intellectuel de tous les fils du pays vers la capitale, là où les conditions de vie freinent souvent les étudiants de certains étudiants. Donc, pour revitaliser le secteur éducatif au Mali, il faut prendre des mesures courageuses comme la promotion des écoles techniques et professionnelles, l'octroi des bourses d'études à ces élèves, puisqu'on sait que c'est les étudiants, les élèves qui partent à l'université sont bénéficiaires des bourses en partie et non ceux qui ont fait donc des centres de formation technique et professionnelle. Donc il faut les encourager. Donc ces étudiants-là dans ces centres. La création aussi des bibliothèques numériques et la mise en œuvre des politiques éducatives axées sur la création des universités numériques avec des cours en ligne. Bref, il faut ajouter Donc les universités, il faut adapter les universités à notre génération. Là où le bas blesse maintenant, c'est que le Mali a adopté le système LMD, licence master doctorat, depuis plus de 4 ans, 5 ans. Donc les promotions même sont déjà sorties. Mais ils ne sont pas accessibles au concours d'entrée à la fonction publique. Donc le principe d'égale admissibilité aux emplois de l'ancien système et du nouveau maintenant sont diamétralement opposés. Ils sont considérés, les détenteurs de la licence comme de catégorie A, mais ils n'ont pas accès, ils ne participent pas au concours, donc par insuffisance ou par manque vraiment d'adaptation même de leur cycle professionnel et au concours aussi de la fonction publique. Donc ils sont à la maison, ils sont restés à la maison, et il faut que les politiques prennent vraiment des mesures en aménageant, en modifiant même les lois, donc qu'ils les restreignent, donc de participer comme les autres. Donc vraiment, tout cela, avec le chômage là ajouté, font que les étudiants, donc qui sont déjà finis, qui sont sur le marché de l'emploi, s'ajoutent à ceux qui font maintenant l'immigration, donc vers à la quête vraiment d'un Eldorado.
Merci beaucoup, Adama. Une petite question. Vous travaillez dans l'enseignement également?
Non, bon, je travaille dans l'enseignement, mais pas en tant que fonctionnaire, c'est dans le privé.
D'accord, très bien. Vous travaillez dans un institut technique?
Oui, effectivement, dans un institut technique.
On peut vous demander quelle matière?
Les cours de droit, surtout.
Des cours de droit, très bien. Merci. Ben merci beaucoup pour ce rapport. Effectivement, hein, on a bien écouté attentivement hein, tous les points que vous avez évoqués. Merci beaucoup Adama Togola. On a quelqu'un à New York. C'est Mamadou Bar qui est à New York, à Manhattan. Et il dit lui que les étudiants sont confrontés à beaucoup de difficultés, notamment le logement, les soins de santé, etc. Mamadou, bonsoir. Comment ça va?
Hello, bonsoir à vous et bonsoir à l'ensemble des auditeurs.
Alors, vous-même, donc, vous êtes aux États-Unis, vous avez fait vos études aux États-Unis, j'imagine. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement dans votre pays, l'enseignement, en tout cas, dans votre pays d'origine, l'enseignement supérieur?
Bon, pratiquement, je suis d'origine guinéenne et j'ai fait mes études supérieures là-bas avant de venir ici.
Ah d'accord, bon, ok.
Je trouve que le système de l'enseignement universitaire en Guinée est profondément malade, c'est à l'image presque de toute l'Afrique. Pratiquement, la Guinée dispose d'une seule université digne du nom, c'est l'université Gamal Abdel Nasser. Mais il y a une autre université qu'on appelle l'université Judith Nyerere qui se trouve à Kankan, à l'ouest du pays. Mm-hmm. Donc, en dehors de ces deux universités, il y a eu une prolifération des universités privées qui constituent aujourd'hui un secteur lucratif pour des nantis de la Guinée. Donc, ils n'ont aucun souci pour la formation de ces étudiants. Et les étudiants qui viennent généralement...
Attendez, Mamadou, excusez-moi. Est-ce que c'est cette prolifération d'universités publiques, privées, pardon, dont vous parlez, est-ce qu'elles sont tout de même contrôlées par l'éducation nationale?
Non, pas du tout. Je peux vous donner un exemple. Il y a l'université Kofi Annan de Guinée et celle de ce qu'on appelle la Source, qui sont des universités privées qui dispensent des enseignements dans le domaine de la santé, médecine et pharmacie, alors que ces étudiants ne sont pas, leurs diplômes à la fin de leurs études ne sont pas reconnus au niveau national et au niveau sous-régional. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci corrobore qu'il y a vraiment une rupture et l'État ne contrôle plus rien dans ce pays-là. Donc, les étudiants sont confrontés à d'énormes difficultés. Il y a le problème d'infrastructure d'abord. Il n'y a pas, si nous voyons de nos jours, à l'université, dans les universités guinéennes, il n'y a même pas le système d'hébergement. Les étudiants, chacun se débrouille dans les quartiers et cela ne permet pas à l'étudiant de bien se concentrer sur ses études et sur ses recherches. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les pécules. Les étudiants, généralement, bénéficient d'une modique somme à la fin de chaque mois leur permettant de subvenir à leurs besoins. Et cette somme ne vient pas à temps. Donc, il y a ensuite, il y a beaucoup de gens qui se réclament des professeurs qui donnent des cours à l'université, alors que certains n'ont même pas le baccalauréat. Le baccalauréat, ce sont des gens, à travers les relations de la parenté ou bien des relations d'amitié, ils sont recrutés dans ces universités pour venir vraiment contribuer à la déformation de ces étudiants. Et ces étudiants aussi sont complices. Ils savent ce qu'ils reçoivent dans ces universités ne leur permet pas d'affronter le marché de l'emploi, mais ils se taisent et ils sont complices. Et à la fin, ce qui leur préoccupe surtout, c'est d'avoir le diplôme et à la fin des études, ils prennent le chemin de l'immigration.
Mais merci beaucoup. Mamadou, quand vous dites qu'ils n'ont même pas le baccalauréat, vous parlez toujours de ces universités privées ou est-ce qu'on a le cas aussi qui se pose dans les universités publiques?
Privé comme public, ce laxisme existe des deux côtés.
Alors merci beaucoup Mamadou pour toutes ces informations. Alors moi j'avais appris de la part de l'Association des universités africaines que les enseignants en Afrique de l'enseignement supérieur, on n'a pas plus de 20% qui sont doctorants. Bon, ce qui est pas mal si l'on prend en compte le ce que vient de nous dire à Mamadou, en tout cas, que certains enseignants n'auraient même pas le bac, dit-il. On va citer Norbert Mukendi, qui est en République démocratique du Congo et qui parle, lui, de la mauvaise qualité de l'enseignement et de l'indisponibilité des enseignants. Nous l'avons justement en ligne. Norbert, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir la Vie Afrique, bonsoir à tous les auditeurs de la Vie Afrique, la chaîne qui donne des informations, des émissions équilibrées aux citoyens du monde. Bonsoir.
Merci beaucoup Norbert, à vous la parole.
Ok, dans mon intervention, j'ai évoqué le volet. Premièrement, le premier volet qui est celui de la monétisation et le second qui est celui de la paix sur la planche dans les chefs des professeurs et des enseignants. Donc aujourd'hui, les professeurs eux-mêmes n'encouragent pas les étudiants à bien mener les recherches, à bien pratiquer, à faire ce qu'il faut pour que l'enseignement soit de qualité. Aujourd'hui, tout est monétisé. Les travaux pratiques sont monétisés. Et mener des recherches, les professeurs commencent à mener des recherches à la place des enseignants et des étudiants. Et les étudiants qui arrivent, qui donnent de l'argent et qui ne font pas ses recherches, et les professeurs font des recherches à sa place. Donc c'est vraiment inadmissible. Et le deuxième volet, j'insiste sur la paix sur la planche dans les chefs des enseignants. Les enseignants aujourd'hui ont beaucoup de travaux à faire. En même temps, il est enseignant, en même temps, il est un cadre politique dans un parti, un fonctionnaire, un DG dans une entreprise de la passée. C'est vraiment inadmissible. Et comment celui-là fera une bonne préparation pour venir donner la bonne matière, la matière de qualité aux étudiants? Donc, c'est vraiment ce qui gangrène, ce qui cause des rédhibitoires à la qualité de l'enseignement, précisément chez nous au Congo. Il y a aussi un autre volet que j'évoque, les loisirs. Donc, les étudiants congolais ne s'engagent pas à faire des loisirs, ne s'engagent pas à mener des recherches, à étudier comme il se doit. Ils ont consacré tout leur temps à des loisirs. Donc, c'est ça aussi. Donc, les responsabilités sont partagées. Les responsables de cette mauvaise qualité, en même temps, c'est l'étudiant et en même temps encore, c'est lui le professeur.
Mais en effet, si vous parlez d'élèves qui donnent de l'argent au professeur pour que le professeur fasse le travail à leur place, il y a effectivement un problème de motivation. Évidemment, ici, selon vous, Norbert, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est un tableau assez sombre de la situation qu'on a là avec nos trois auditeurs jusqu'ici. On a Ousmanou Moussa qui a écrit sur notre Facebook qu'il faut chercher des enseignants de qualité, Lenka Eratus. Alors, il dit tout pays gouverné d'une main de fer gère mal l'université. Il voudrait parler de son pays, le Tchad. On essaie de le joindre. On a aussi Julien. Julien, qui parle des conditions de travail qui sont souvent médiocres, et même on note parfois, dit-il, la mauvaise qualité des formateurs. Alors il pense que des réformes sont nécessaires. Il est du Bénin, il est de Lokossa. On attend donc d'autres auditeurs en ligne. On a personne. On a Mamadou Samba.
Oui,
Mamadou Samba, bonsoir.
Oui, à l'ensemble de vos auditeurs.
Mamadou Samba, donc, est en Guinée et vous pensez que l'enseignement supérieur est malade. Dites-vous, on vous écoute.
Oui, il est malade, hein, comme je l'ai dit sur votre page Facebook et comme un prédécesseur déjà dit. C'est un système aujourd'hui qui est agonisant. Parce que, voilà, il n'y a pas de politique claire, il n'y a pas de fond, il n'y a pas une prise de conscience de la part des autorités, parce que les gouvernants qui sont là ont la plupart de leurs enfants dans les meilleures universités aux États-Unis, ou disons en général en Occident. Donc, ces responsables-là se soucient peu de l'avenir de l'enseignement supérieur. Quand vous prenez le cas de Conakry, la capitale, j'ai parlé d'un problème de pléthore dans les salles de classe. Vous verrez ici des étudiants qui n'ont que 2 jours dans la semaine. Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces 2 jours-là? Et après ces 2 jours, on est à la maison, on n'a rien d'autre à faire. C'est excessivement grave parce qu'on n'a pas pensé à construire des infrastructures. La plus grande et la première université du pays, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ne bénéficie pas d'attention. Elle a été construite par le président Sékou Touré. C'est comme l'université Julius Nyerere de Cantan, l'institut Valéry Giscard d'Estaing de Farana. Et les régimes qui se sont succédés, le régime de l'Ansana Conté jusqu'à l'actuel d'Alpha Condé, n'ont pas pensé à créer des institutions d'enseignement supérieur dignes de nom. Donc ce sont parfois des écoles de police ou de petits bâtiments qui sont transformés en université, et c'est un enseignement de masse qui est là. On s'en fout de la qualité, mais on veut juste qu'il y ait des promotions qui passent, qu'ils reçoivent des diplômes, et puis tant pis pour la qualité, tant pis pour demain. Donc c'est des chômeurs en fait qu'on forme parce qu'ils n'ont absolument presque rien dans leur tête, ce qui fait que l'avenir aujourd'hui du pays est menacé. Et pour moi, il devrait beaucoup plus se pencher à donner de la valeur à l'enseignement technique et professionnel plutôt que de former des gens dans ce qu'on appelle ici les sciences du langage ou le droit, la sociologie, parfois des trucs, des choses littéraires qui n'ont aucune importance pour le développement d'une nation. Quand on doit faire une route, c'est pas quelqu'un qui a fait, ma foi, la sociologie ou parfois la philosophie qu'on a besoin. Il faut des ingénieurs et malheureusement, ça, on n'en a pas.
Merci beaucoup, Mamadou. Un grand merci. Mamadou, un grand merci. Je voudrais prendre Alousseni en ligne. Bonsoir à vous, la parole.
Bonsoir, oui.
On vous écoute.
Oui, c'est Alousseni, je suis détenu de Sénégal. Donc, pour moi, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de volonté des autorités. Parce qu'ils ne mettent pas les moyens et ils ne donnent pas aux étudiants les moyens nécessaires pour réussir dans leur études. Par exemple, le cas sénégalais est un cas très, très décevant parce que l'État avait commencé à orienter les enseignants, les étudiants dans les universités privées et ils assuraient la licence jusqu'à la troisième année, mais maintenant, je trouve que la plupart de ces étudiants-là se retrouvent dans la rue puisque les instituts n'acceptent pas de continuer la formation puisque l'État ne paye plus. L'État est endetté, l'État ne paye plus leur formation.
Un grand merci, Alousseni, un grand merci pour votre témoignage sur l'enseignement supérieur dans votre pays, le Sénégal. Merci à Cheikh Thierro à la production. Merci à vous toutes et à vous tous pour avoir suivi votre émission interactive À votre avis. Restez à l'écoute de VOA Afrique pour la suite de nos programmes. Très bonne soirée.